Le nombre de migrants dans le monde ne cesse de croître. À l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, Radio Galère dresse le bilan de cette problématique toujours plus d'actualité. Depuis toujours, l'humanité a été au mouvement. Mais aujourd'hui, les personnes qui quittent leur pays pour migrer en meurent. La mer Méditerranée reste toujours le plus grand cimetière pour les migrants, puisque 1200 personnes y ont disparu en 2021. Depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont perdu la vue sur cette route qui reste la plus dangereuse. Les migrants sont de plus en plus nombreux dans le monde, environ 280 millions en 2021 contre 173 millions en 2000 et 221 millions en 2010. Les femmes représentent 48% du total. Pour cette journée consacrée aux migrants, des responsables associatifs et politiques ont pris la parole. Pour cette journée consacrée aux migrants, des responsables associatifs et politiques ont pris la parole à la porte d'Aix. Reportage réalisé par Kamaridir.
Oui, bonjour, mon nom est Olivier. Et je représente ici le cercle des citoyens de la Méditerranée de Marseille. Je précise de Marseille parce qu'il y a 30 cercles de citoyens de la Méditerranée tout autour de la Méditerranée. Nous sommes une toute petite association, mais nous sommes nombreux de ce fait qu'il y a ces 30 cercles. Voilà.
Alors le rôle de cette association, c'est quoi exactement?
Alors cette association, ça part du mot citoyenneté. Et un citoyen, comme chacun sait, c'est de droit et de devoir. Et on pense qu'il existe une citoyenneté méditerranéenne à laquelle sont associés des droits et des devoirs liés directement au monde méditerranéen. Et donc, notre vocation, c'est d'aborder tout ce qui fait enjeu ou problème en Méditerranée. Quel que soit le thème, que ce soit la pollution, les migrations, comme c'est le cas aujourd'hui, ou tout autre sujet, l'éducation, le droit des femmes, voilà, tout ce qui est un peu spécifiquement méditerranéen.
Oui, ben moi je m'appelle Shiraz et je fais aussi partie du cercle des citoyennes et citoyens de la Méditerranée de Marseille. En fait, on a profité de la journée aujourd'hui parce que nous avons absolument tenu à soutenir une mobilisation qui se fait chaque année par nos amis en Tunisie pour cette journée internationale du droit des travailleurs, travailleuses, migrants. Car effectivement, nous avons cette année entamé un projet de collaboration avec plusieurs collectifs en Tunisie qui ont vocation de pouvoir être officialisés. Ce sont des personnes, autant des personnes d'origine subsaharienne que d'autres migrations autour de la Méditerranée, mais particulièrement en Tunisie, il y a un accueil très important de personnes subsahariennes qui sont sur le trajet de la migration. Et parmi ces personnes, en fait, il y a de nombreuses initiatives qu'ils souhaitent développer dans la société tunisienne. Aujourd'hui, ils ont c'est un point important, c'est une date de présentation d'un événement auquel nous sommes associés, car nous avons soutenu un projet qui s'intitule Migration Théâtre Forum avec les jeunes. L'idée, c'était de proposer un cursus, un cycle pendant un an d'ateliers de théâtre forum menés par notre ami Jamel Chihraoui, qui est comédien, metteur en scène, qui travaille sur la question, les notions du suicide et du lien avec la haraga depuis plusieurs années en Tunisie, et son ami et notre ami aussi Hussein Tonia, qui a créé plusieurs structures et associations d'étudiants subsahariens et qui actuellement est en train de remonter une association qui s'intitule Semelles d'Afrique, qui a plusieurs objectifs. D'une part, soutenir l'accès au droit à toutes les personnes subsahariennes et migrantes en général, et d'autre part, de créer des liens avec les sociétés civiles en Tunisie comme en Méditerranée, parce que, et je cite mon ami Hussein, en tant que subsaharien qui vit en Tunisie, il se considère étant donné comme un Méditerranéen. Donc aujourd'hui, voilà, nous soutenons également l'initiative des usagers de la PADA, nous soutenons les initiatives des personnes qui sont en demande de titre de séjour en Marseille, au titre de vraiment exprimer qu'il y a des initiatives réalisées par les personnes concernées. Ils n'ont pas accès à certains biais officiels avec lesquels nous, en tant que citoyens officiels, parce que nous parlons de citoyenneté, mais c'est pas cette citoyenneté qui est donnée par le fait d'avoir des papiers. Nous, la citoyenneté qu'on défend, c'est celle que nous habitons le pourtour de la Méditerranée, nous l'avons traversée, nous y avons des racines et nous allons et peut-être y développer justement des liens de famille, de fraternité, de sororité, et que cette citoyenneté-là, c'est la base de justement la construction de la société méditerranéenne, et qu'on aimerait effectivement soutenir des initiatives, créer des liens et des réseaux qui permettent de développer cette notion de citoyenneté humaine en fait.
Comme je vous ai dit, c'est une petite association, donc mon rôle, et disons que c'est le rôle de tout président d'une petite association. J'ai la chance, si je puis dire, d'être retraité, donc j'ai plus de temps que d'autres à pouvoir y consacrer, et je le fais avec beaucoup de bonheur et en rencontrant beaucoup de gens. Je voudrais ajouter un mot à propos du Théâtre Forum, parce que on peut en parler de mille manières, de tous les problèmes ou enjeux méditerranéens. C'est quoi l'avantage du Théâtre Forum ? C'est qu'il est conçu à la fois pour permettre à ceux qui le pratiquent de s'émanciper, à la fois sous un angle personnel, mais sous un angle collectif, mais surtout de débattre avec le public. C'est-à-dire que c'est une manière non seulement de sortir un peu de soi-même et de sensibiliser les gens et de les aider à avoir des discours constructifs et argumentés avec l'ensemble des populations qu'ils peuvent croiser. Ça nous paraît très important, cet apprentissage, cette opportunité de dialogue que donne le Théâtre Forum. Une chose qui nous a fait vraiment aller de manière très volontaire vers ce projet, donc Migration, Théâtre Forum avec les jeunes en Tunisie, et en faisant travailler ensemble des subsahariens et des jeunes tunisiens, c'est que les trois pays du Maghreb, restons déjà sur le pays du Maghreb. Je sais bien qu'il y a plein d'autres problèmes, bien plein d'autres zones géographiques touchées par ce sujet. Mais si vous prenez le Maghreb, il se caractérise par le fait que les subsahariens, ils arrivent aussi bien au Maroc qu'en Algérie qu'en Tunisie, et ils arrivent dans un pays où la jeunesse, les natifs de ces pays, ils ont eux aussi envie de se lancer dans la traversée de la Méditerranée. Ça fait que ces trois pays, ils partagent entre eux ces points communs, disons, d'accueillir en majorité quand même des subsahariens, et en même temps que leur jeunesse a aussi envie de tenter la même aventure, à savoir celle de la traversée de la Méditerranée, que ces migrants subsahariens. Donc c'est un sujet qui touche quand même toute la partie occidentale de la rive sud. Trois pays, et j'ai laissé de côté la Libye qui a un problème encore plus compliqué, mais si vous prenez ces trois pays, qui sont quand même trois anciennes colonies, ma foi, des pays correspondants de la rive nord, ça fait sens d'aborder ce sujet. Voilà, c'est juste pour préciser un peu notre vision des choses.
Donc si je comprends bien, les Algériens qui partent en exil, ils passent par la Tunisie, parfois ils restent bloqués là-bas.
Il se peut que ce soit les Algériens, mais globalement, on peut dire que les pays du Maghreb sont des pays qui accueillent énormément de mouvements de migratoires. De plus, ils sont à la lisière en fait, de la frontière Schengen. Donc ça implique des positionnements politiques extrêmement difficiles pour les personnes qui ont le droit d'aller chercher un avenir meilleur dans n'importe quel endroit de principe. Si on regarde les migrations qui se sont déroulées entre l'Europe et le Nouveau Monde, en fait l'histoire n'est faite que de la même histoire pratiquement, si on dit, je schématise un peu. Hein. Mais en tout cas, il y a des points de tension extrêmement forts qui sont aujourd'hui, couverts par une politique globale européenne où justement les personnes qui arrivent en transit ou en exil, ou qui même, simplement, il y a énormément de personnes qui, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'université dans certains pays en Afrique subsaharienne, doivent aller essayer de trouver une place en tant qu'étudiante dans les pays du Nord. Et ainsi de suite. Donc, on a une montée vers le Nord pour acquérir des compétences, des diplômes, pour acquérir des moyens financiers de développer son travail, des entreprises, etc., etc. Donc, en fait, il y a des points de tension extrêmement forts dans les pays du Maghreb qui ne sont pas beaucoup visibilisés. Moi, je trouve qu'il y a énormément de qualités qui se développent à travers ces enjeux-là, notamment autour d'initiatives solidaires, autour de la compréhension d'une culture commune aussi liée au continent africain, où il y a des richesses qui sont valorisées à travers ces différents types d'expressions, et où depuis plus d'une dizaine d'années, le Théâtre Forum a connu quand même un essor extrêmement lié en fait au mouvement de révolution et au mouvement politique au Maghreb, où il y a une expertise qui est intéressante aussi de montrer et de développer dans le reste du monde.
Oui, donc d'accord. Pour ce qui concerne les jeunes Tunisiens, quand même on voit beaucoup de Tunisiens qui fuient vers l'Italie, vers l'Espagne, et c'est pour quelle raison?
Il y a quand même une raison géographique particulière, spécifique au Maroc et à la Tunisie. Parce que ce sont dans ces deux pays que les côtes de la rive nord et de la rive sud sont le plus proches. Avec le détroit de Gibraltar, ça c'est pour le Maroc, et pour la Tunisie, c'est vers la Sicile. C'est pas très loin d'aller de la Tunisie vers la Sicile. Donc forcément, les gens, ils cherchent ces passages-là. C'est pour ça que ça avait du sens de mettre un peu le paquet sur comment ça se passe en Tunisie. Mais on aurait pu, la même histoire se passe un peu de la même manière au Maroc.
La Tunisie, ça sert de point de départ.
Voilà,
c'est un carrefour migratoire très important. Dans ce carrefour migratoire, aujourd'hui on en parle comme un carrefour migratoire, c'est un carrefour culturel, c'est un carrefour dans tout le temps, les sens du terme. Mais tout à l'heure tu posais la question pourquoi les jeunes en fait ils se retrouvent à traverser la Méditerranée. La question en fait, elle se pose parce que ça devient un problème aujourd'hui. Mais l'histoire migratoire entre les pays du Maghreb et la France, je veux dire, ça fait quand même des années. Il y a 40 ans, les gens prenaient le bateau, payaient 35 francs et venaient travailler. Voilà. Et les liens se sont construits avec des familles qui sont ici depuis des centaines d'années, qui sont aujourd'hui encore considérées comme des personnes qui n'ont ni droit d'être français, ni droit d'avoir un titre de séjour dans l'absolu, d'être traitées comme étant des gens qui viennent mendier ou même récupérer les subsides que certains laisseraient de côté. En fait, cette mentalité-là, elle est ancrée dans de nombreuses cultures. La culture de la personne pauvre qui a besoin de créer son avenir et qui vient grappiller des choses, mendier, voire voler, c'est une culture en fait qui malheureusement, un état d'esprit qui existe dans beaucoup de sociétés, que ce soit des sociétés de pays plutôt riches que des pays plutôt pauvres. Donc aussi l'idée de ce projet en Tunisie, c'était que les personnes se rencontrent entre elles, tout comme ici, on a le devoir de devoir se rencontrer entre personnes avec des situations différentes pour se reconnaître aussi dans un état de dignité commune.
Je voudrais juste dire un mot, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. C'est que dans le sud de la Tunisie, tout proche de la frontière libyenne, il se trouve que c'est là que les courants marins de la Méditerranée regroupent, sur la force de ces courants, les corps de ceux qui ont laissé leur peau. Et donc, c'est un carrefour de migrants vivants, mais c'est aussi un carrefour de migrants morts. Et le projet qu'on développe là cette année, en réalité, il a pris naissance il y a déjà 4 ans avec ces personnes qu'a mentionné Shiraz, c'est-à-dire Jamel Chirawi et Hussein Tounia, parce que ces deux personnes se sont retrouvées, et Shiraz aussi, lors d'une manifestation dans ce golfe, au fin fond de ce golfe, là, tout au sud de la Tunisie, qui est le golfe de Zarziz, où un pêcheur retraité a arrêté son activité de pêcheur pour créer un cimetière qui est baptisé le cimetière des inconnus, parce qu'on ne connaît pas leur nom. Et donc, c'est difficile de ne pas mentionner, au moins par respect pour eux, l'existence de ce cimetière et de cette initiative.
Oui, voilà. Ce pêcheur qui est tunisien, qui est soutenu par, je crois, des personnes de nationalité algérienne, parce qu'il avait cette association, il fait partie en tout cas de l'association des pêcheurs artisanaux en Tunisie, qui est basée à Zarziz, et qui depuis plus de 20 ans font des rapports à l'Union européenne ainsi qu'à toutes les instances humanitaires sur la mort. Justement le flux énorme de personnes qui risquent leur vie, sont des experts du sauvetage, sont des experts en fait de la migration. Ce sont ces personnes-là qui sont de simples pêcheurs et qui le font avec leurs propres deniers, leurs propres bras, au prix même de la mort et de la disparition de leurs propres proches. Et jusqu'à maintenant, effectivement, ce sont eux qui ont été, on va dire, les personnes qui ont alerté sur ce phénomène-là en Tunisie et qui ont contribué à développer les liens avec des personnes aussi qui arrivaient en exil ici, là-bas, avec qui ils travaillent, avec qui ils ont des difficultés de pouvoir simplement leur faire un contrat de travail. Ils le souhaitent eux-mêmes. Donc effectivement, oui, on ne peut pas parler de ce qu'on fait aujourd'hui sans parler de leur combat fondamental là-bas. Voilà.
Rappelez-moi votre nom et profession.
Donc Shiraz, et donc moi je suis administratrice au Cercle des citoyennes et des citoyens de Marseille, méditerranéen de Marseille, et je suis agent d'accueil dans un centre social. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie et merci à vous.
Aello, d'origine calabraise et réalisatrice d'une vingtaine de documentaires consacrés aux questions d'identité et de société. En 2016, elle co-réalise País de Calabria sur le village de Riace. Écoutons-la.
La nave a toccato terra. La storia di Riace è cominciato con il nostro barco quando è sbarcato qua.
Facite la mossa.
Et Dieu a voulu qu'on nous amène ici et nous en accueille comme ça.
Il viaggio invece è fiorito, è tornato alla vita.
La solita stravaganza di mio figlio.
10 curve che sono sbarcate da cosa me li porta.
9 ragazzi che venivano dall'Egitto, si vede che sono ragazzini, non si vede.
Però quello che sicuramente possiamo fare è va combattuto senza mezzi termini la cultura mafiosa.
Il voto del diritto è un dovere civico.
Non deve passare la riputazione, non voto.
Ma voto italiano, ma voto.
Chu Aiello, réalisatrice de films documentaires.
Alors, avant de commencer, parlez-nous un peu de votre film.
Alors, le film que nous allons présenter ce soir, dans le cadre de cette journée internationale des migrants, est un film qui se passe à Riace, un petit village d'Italie, qui a décidé, il y a 20 ans, de de renaître, parce que c'était un village qui se vidait, comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, et qui a décidé de renaître en invitant des migrants à reconstruire et à refaire vivre ensemble le village. Donc j'ai fait un film qui raconte ce village, cette cohabitation qui existe depuis 20 ans.
Racontez-moi comment ça s'est déroulé le film, le tournage, le... parce qu'il y avait beaucoup d'âmes quand même.
Oui, oui, oui. En fait, on a commencé à tourner en 2013, donc ça fait longtemps. C'est un village très particulier, un village du sud de l'Italie, donc où les gens sont très silencieux, ne parlent pas beaucoup. Donc c'était pas très facile de filmer là-bas. Donc on a commencé petit à petit à se faire connaître dans le village, à rencontrer le maire de l'époque, qui était donc Domenico Lucano, et à se faire raconter l'histoire du village, à voir les migrants qui vivaient là, les écoles, les ateliers de formation, etc. Et puis on est revenu comme ça pendant 3 ans. On faisait des petits séjours, 1 semaine, 10 jours. On filmait, on repartait, voilà.
Pendant le déroulement, comment ça s'est passé, le contact avec les migrants, les réfugiés? Il y avait de tout, non?
Ah oui, oui, il y avait des réfugiés demandeurs d'asile. Il y avait également des migrants qui étaient installés là depuis longtemps. Donc, qui sont maintenant devenus des amis, comme Ousmane, par exemple, et sa famille, comme plusieurs des Kurdes qui étaient là depuis le premier jour. Donc ça, c'était des gens qui sont installés définitivement à Riace. Et puis, il y avait les demandeurs d'asile, avec qui on a eu, bien sûr, des contacts. Mais nous, on a toujours évité de leur poser des questions sur leur arrivée, leur voyage, parce que c'était encore très douloureux pour tout le monde. Et on a interviewé que les gens qui sont venus nous parler spontanément. Donc c'est pour ça qu'on a quelques personnes qui nous parlent spontanément dans le film, qui nous racontent la traversée, la Libye, ce qui s'est passé en Libye, comment ils sont arrivés là, leur parcours, voilà.
Alors, quand on regarde le film, on a l'impression que c'est... tout est gagné, tout est réussi, les familles sont en place. Un village qui a accueilli, surtout en Italie, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans après, l'extrême droite ou je ne sais pas qui vous ont tombé dessus. Comment ça s'est passé?
Ben, il s'est passé, donc, cette harmonie de ce village, elle a duré 20 ans. Et il s'est passé que ce village a commencé à devenir célèbre dans le monde entier. Que le maire a été élu une des personnes les plus influentes de la planète par le magazine Forbes aux États-Unis. Il a reçu le prix de la paix à Dresde, etc. Bref, ce village est devenu un modèle et c'est ça qui a fait peur à tout le monde. Et là, ont commencé des petites enquêtes administratives. On a commencé à leur chercher des poux. Et bizarrement, à la suite de ces enquêtes, bon, c'est d'abord des enquêtes administratives, bon, pas grand-chose. Et puis arrive au pouvoir en Italie, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. Et là, on a une plainte qui est posée contre Domenico Lucano.
Est-ce que vous avez eu des menaces? Est-ce que vous avez eu des...
Non, on n'a jamais eu de menace. Domenico Lucano, le maire du village, en a eu, lui, beaucoup. Hein. On lui a empoisonné ses chiens. On a tiré à balles réelles sur l'auberge collective qu'ils avaient construite à Riace. À tel point que sa femme et ses enfants ont quitté le village parce qu'ils avaient peur. Domenico Lucano et le village de Riace se sont portés partie civile contre les agissements de la mafia. Ça, c'est le premier village du sud de l'Italie qui faisait ça, en Calabre, je veux dire. Donc, tout ça faisait qu'il y avait quand même un climat qui était dur, qui, malgré l'harmonie qui régnait dans le village, c'était une grande tension. Et quand Salvini est arrivé au pouvoir, ça a été concomitant, là, ont commencé des plaintes, des lettres anonymes, etc. Également, on commençait des déprédations dans le village. On a détruit la boutique d'un Africain qui l'avait installé dans le village, etc., etc. La plainte étant arrivée, on a décidé de faire l'enquête et le maire a été suspendu de ses fonctions. Et il a été mis aux arrêts, puis après il a été banni pendant 1 an du village sous prétexte que l'enquête se fasse sereinement. Et c'est là que tout a commencé à basculer. Parce que les habitants du village, ben, eux, ce sont des paysans, hein, des gens très simples. Donc tout à coup, une plainte du parquet, le parquet c'est l'État quand même, ils se disent mais on a fait quelque chose de mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils ont commencé à avoir un doute. La Ligue, donc le parti d'extrême droite, a envoyé deux personnes soutenir un candidat aux élections qui ont eu lieu. Et donc ce candidat, qui était un candidat de Riatch, c'est plutôt de droite, mais bon, pas particulièrement affilié à la Ligue, mais ce candidat, grâce à eux, est passé. Donc il y a eu deux adjoints d'extrême droite. Et voilà, voilà comment tout a basculé. Tout a été fermé, l'école, les magasins. Les migrants ont été emmenés dans des camps. Ah oui, oui, ça a été, c'est une tragédie qu'on connaît très peu. Hein. Et là, enfin, après tout ce temps, le Conseil d'État italien et la Cour de cassation ont décrété que cette enquête n'avait pas lieu d'être parce que finalement le maire n'avait rien fait de mal. Le procureur du tribunal a dit « Moi, ça ne m'intéresse pas ce que disent ces gens-là » et il a fait une accusation à charge contre Domenico Lucani. Finalement, il a été, il y a eu une réquisition où on demandait 7 ans de prison pour le maire de Riace. La sentence du tribunal a eu lieu le 30 septembre et il a pris 13 ans de prison. Voilà. Et les chefs d'accusation sont favorisation d'immigration clandestine, favorisation de mariage blanc, association de malfaiteurs, etc. etc.
Donc, personnellement, moi, quand j'entends ça, c'est qu'ils ont vidé le village, ils ont déporté les gens.
Ils ont vidé le village et ils ont détruit totalement, dans toutes ses ressources, ils ont détruit la possibilité d'accueil du village. Ils ont détruit la coopérative qui se chargeait de gérer l'accueil. Ils ont détruit les écoles, ils les ont fermées. Ils ont tout fermé. Pardon.
Où est-ce qu'on est avec l'affaire ?
Ben aujourd'hui l'appel va être fait, bien sûr. Là, les avocats se réunissent parce que la sentence a été très lourde. Donc maintenant, ils doivent étudier les motivations de la sentence et faire appel. Il y a beaucoup de soutien en Italie, il faut quand même le dire, pour avoir un petit peu d'optimisme, de très grandes manifestations, etc. etc.
Quel message vous adressez à... aux Marseillais, aux migrants, aux réfugiés?
Le message que je leur adresse, c'est que cette histoire, elle est symbolique d'une Europe qui se referme. Elle est symbolique d'une attaque qui devrait tous nous concerner, qui devrait tous nous blesser. Elle est dangereuse. C'est une affaire qui est dangereuse. C'est la première attaque aussi grave contre le principe d'accueil. Et moi, c'est pas un message, mais ce que j'aurais à dire, c'est qu'aujourd'hui, on est devant un choix de société. Il faut choisir son camp.
Rappelez-moi votre nom et profession.
Chu Aiello, réalisatrice de films.
Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et bon courage.
Merci à vous.
Moi, c'est Aboubakar, je suis membre de l'association des usagers de la PADA de Marseille. C'est une association des demandeurs d'asile. Qui regroupe que les demandeurs d'asile. Voilà. Moi, je suis vice-président et aussi responsable de la permanence juridique. Tout ce qui est juridique, à savoir les démarches administratives, la rédaction, les préparations des entretiens OFRA ou CNDA, et tout ce qui est juridique, ça peut être social, inscription des enfants à l'école, aussi la rédaction des récits de vie des demandeurs d'asile, et aussi les préparations d'entretien, les dossiers d'examen, les dossiers de l'OFI, de la préfecture, le renouvellement des CMU, tout ça. Et on fait tout ça à la permanence juridique.
Et vous êtes passé par l'immigration ou...
Je suis passé par l'immigration.
Moi,
moi, je suis arrivé de 2017 en 2017 à l'Italie. Je suis passé en Allemagne et puis j'ai terminé par la France.
Et comment vous avez... C'est la première association qui vous a accueilli?
Moi, c'est les particuliers qui m'ont accueilli, mais après, j'ai fait pas mal d'associations, la CIMAD, le COMED, le Réseau Éducation Sans Frontières, le MAMBA, les différents collectifs. Voilà.
Et donc maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes régularisé, vous donnez encore de l'aide aux autres
personnes? Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est normal d'aider aussi les semblables, parce qu'on est passé par là. Et je pense que le plus mauvais, c'est quelqu'un qui oublie son passé, d'où tu as passé, toutes les difficultés. Je pense que c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes problématiques que tout le monde rencontre en fait. Pour s'en sortir, il faudra que ceux qui ont reçu essaient aussi d'aider ceux qui n'ont pas, ceux qui sont en procédure aussi.
Alors nous, on est à la porte d'Aix. Et vous savez que derrière nous se trouve beaucoup de migrants qui viennent du subsaharien. Qu'est-ce que vous leur dites à la radio?
Moi, ce n'est pas à eux. Moi, je pense que c'est à l'État français. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est... Je ne trouve pas de mots de qualification, surtout vis-à-vis des pays européens, parce que la seule chose que moi j'ai à dire, si on voit quelqu'un partir de chez lui, c'est parce que sa maison ne lui permet plus de vivre, parce que sinon, toutes ces personnes qui sont derrière nous aujourd'hui, quand on regarde ce jeu, ils ont tous des maisons, ils ont tous de quoi manger, mais parce que s'il y a quelque chose qui t'oblige à partir de chez toi, tu seras obligé. Et c'est pas, ça ne leur plaît pas de rester ici, de dormir, de passer tout le temps. Mais surtout dans un pays où qui se dit, moi, c'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays où ils se vantent de dire l'égalité, liberté, fraternité, alors que ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas à eux, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Parce que dire que vous êtes là, vous nous emmerdez, alors qu'il y a, c'est, il y a des Français qui sont dans d'autres pays aussi, qui sont sur ces personnes aussi, qui vivent aussi régulièrement. Et voilà, moi, je pense que... Normalement, il n'y a pas à avoir une limitation ou bien dire que tu n'es pas chez toi. Bon.
Et comment vous voyez la France de demain?
Pire que ça aujourd'hui. Moi, je pense que la France ne pourra jamais s'en sortir parce que la France, en tant que la France, c'est zéro. La France, c'est les étrangers. S'ils pensent que les étrangers vont partir, que si tous les étrangers décident de rentrer chez eux, je pense que la France, il n'y a rien. Quoi, parce qu'il y a aucun... Pour moi, il n'y a aucun Français qui pourra me dire « Voilà la seule qui est purement française, tout est mélangé. La France, moi j'ai eu un acte racial ethnocentriste en Allemagne en disant que les francophones, pourquoi on part en Allemagne alors que c'est nous qui avions aidé la France à combattre l'Allemagne. La France, c'est les étrangers qui ont fait la France. Je pense que la France d'avenir, s'ils ne changent pas d'avis, dire que vous rentrez chez vous, si les étrangers rentrent chez vous. » Je pense que la France, ça sera pire que ça aujourd'hui.
Donc vous êtes déçu par la politique française en général ?
Bien sûr que oui, je suis déçu, totalement déçu.
Au Mali, quand même, les gens fuient le Mali, malgré qu'il y ait la force française là-bas. Mais
moi, je pense que c'est hypocrite, c'est hypocrite de la part de la France, disant que nous, on veut la paix chez vous, alors que les personnes qui sont ici sont aussi dans la plus grande merde, sont dans la plus grande difficulté, au lieu d'aller faire dire que ouais, moi, je suis là pour t'aider. Les personnes qui sont ici, qui ont déjà fui, qui sont là, vivent aussi plus mystérieuses que ceux qui sont là-bas. Je pense que le mieux, au lieu d'aller faire de la paix, essayer aussi les personnes qui sont là, les accueillir. Mais c'est que la France, dans tous les pays européens, moi je pense que c'est que la France, on voit les personnes dormir dehors. En Italie, je ne l'ai pas vu, en Allemagne, je ne l'ai pas vu. C'est que la France, on voit les personnes dormir dehors. Je pense que là, ce n'est pas une bonne image.
Que l'association des usagers de la PADA, il y a plus de 500 membres, je crois, qui s'entraident. C'est un réseau d'entraide vraiment actif. Ouais. Et il y a 27 nationalités, c'est-à-dire pas uniquement des subsahariens.
Ouais. Voilà. Nous, on n'a pas fait de différence. Il y a tout. Presque, il y a toutes les nationalités, on peut dire, quasiment, qui demandent l'asile. Le but de l'association, ce n'est pas de faire une distinction. On est tous égaux, on est tous pareils, il faudra s'entraider. Personne n'est formé, il n'y a pas de supérieur, malgré qu'il y a le bureau. Mais je pense que nous, le but pour nous, c'est qu'on a tous vécu les mêmes problématiques, et il faudra s'entraider, se donner la main. Merci à vous, journalistes.
Merci à vous aussi. Merci. Alors, je suis à la porte d'Aix. On est
Le 18 décembre.
Alors, présentez-vous, s'il vous plaît.
Alors, c'est Nadine, déléguée du collectif des demandeurs et demandeuses de papier de Marseille, connu sous le CDP 13. Ce collectif, juste une petite présentation, ce collectif a été créé suite à l'urgence sanitaire qu'a connue la France, donc le premier confinement. Et comme on a vu que la situation des sans-papiers s'est dégradée carrément pendant cette urgence sanitaire, donc on s'est mis en collectivité, on s'est dit qu'il faut s'unir pour demander au moins nos droits fondamentaux. Pour attendre une régularisation globale, comme on l'a toujours souhaité, je crois que ça devient de plus en plus impossible. Par contre, tout ce qu'on voudrait, c'est que les portes s'ouvrent un petit peu, qu'on essaie de voir cette catégorie de personnes qui sont sur le sol français. On est là. On travaille ici, on cotise ici, nos enfants sont scolarisés ici, d'autres enfants sont nés ici. Donc on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas nous ouvrir une porte de régularisation qui nous permettrait d'être une partie intégrante de la société française.
Alors vous avez parlé des enfants, dans quelle situation ils vivent les enfants des familles qui n'ont pas de papier ?
Alors nos enfants de parents en situation irrégulière, c'est vrai qu'ils ont droit à la scolarité, mais à part la scolarité, ils n'ont droit à aucune opportunité. Par exemple, si je parle des voyages scolaires, ils sont interdits et ils ne comprennent pas ces enfants. Ils viennent à la maison nous poser des questions. « Maman, papa, pourquoi je ne peux pas voyager ?» À ce moment-là, on est contraint de leur expliquer la situation et ils éclatent en pleurs. Là, c'est les enfants scolarisés. Si on parle des aides, on dit tout le temps et on entend tout le temps dans le débat public que les sans-papiers ou les émigrés ou les étrangers ils viennent ici et ils piquent les boulots des Français. Ou bien on a droit à des aides sociales. Moi, je dirais non, c'est le contraire. C'est vraiment tout à fait le contraire. Parce que si vous parlez de l'aide médicale de l'État, il n'est pas facile de l'avoir. Il y a des conditions. Et parfois, ces conditions ne sont pas suffisantes. Vous parlez d'aide sociale, le sans-papier en situation irrégulière, il n'a aucune aide sociale. Parce que pour avoir une aide sociale, il y a une condition, c'est le titre de séjour. Donc, tant que ce titre de séjour n'existe pas, on ne peut pas avoir d'aide sociale. Alors moi, j'aimerais bien poser une question à la population française. Qu'est-ce qu'on vous pique ? Au contraire, on travaille, on cotise autant que vous. Par contre, on n'a rien en échange.
Dernièrement, on entend l'extrême droite revenir en force, surtout un certain Zemmour qui a pris comme programme les sans-papiers, qui nous pique tout. Qu'est-ce que vous pensez de cet énergumène ?
De toute façon, moi je ne pense, j'ai pas d'idée à donner vis-à-vis des personnes, mais je dirais que ce discours-là, c'est un discours de haine, tout simplement. Les sans-papiers sont toujours le bouc émissaire des élections. Et l'immigration, pareil. Voilà.
Derrière nous, on est à la porte d'Aix. Il y a les Algériens sans-papiers ici qui vendent des cigarettes. Il y a les Blacks, excusez-moi. Ils sont là, ils n'ont pas de papier et ils vivent dans des conditions difficiles. Que pensez-vous ?
En fait,
ces personnes-là
que vous voyez là, ouais. S'ils ont fui leur pays, c'est pas pour le plaisir. Ils ont fui leur pays parce que soit ils subissent des violences, soit que c'est des problèmes de patriarcat, soit c'est des problèmes de misère et cherchant à améliorer leur situation. Mais quand ils viennent ici, ils sont devant une réalité impossible à imaginer. En fait, en venant ici en France, ils pensaient avoir les portes ouvertes, pensaient être à l'Eldorado, mais c'est tout à fait le contraire. Enfin, sur le terrain, c'est tout à fait autre chose.
Voilà. Dernière question, qu'est-ce que vous demandez aux responsables, au gouvernement ?
On leur demande une chose, soyez humanistes. Voilà ma réponse. Soyez humaniste. Tout simplement.
Merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom et profession.
Nadine du CDP 13.
Merci beaucoup. Alors, vous venez juste de terminer le discours, l'intervention plutôt.
Exactement.
Expliquez-nous ce drame de ce jeune.
Oui, ce jeune a été victime d'un accident de travail. Il est tombé du deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et son employeur n'a même pas voulu qu'on appelle les sapeurs-pompiers pour venir le sauver. Parce qu'il savait qu'il travaillait avec un sans-papier. Du coup, ses collègues qui étaient sur le chantier avec lui étaient dans la triste obligation, vu sa vie en danger, et ils étaient obligés d'appeler les sapeurs-pompiers. D'où les sapeurs-pompiers sont venus. Il a eu tous ses côtes qui sont bousillées, vous avez vu, il était encorsé tout à l'heure, il ne peut plus se déplacer. Et là, il a connu notre collectif. Il a connu le collectif des demandeurs de papiers de Marseille. Nous avons dit, vu ce que nous avons comme connaissance en matière de droit aujourd'hui, nous n'allons pas nous taire, on a saisi le prud'homme. Et aujourd'hui, le dossier est en procès. Et grâce au prud'homme, il est indemnisé. Il prend déjà de l'argent auprès de la sécurité sociale. Et il gagne déjà le SMIC hein, auprès de la sécurité sociale jusqu'à ce qu'il soit guéri. Donc voilà un peu la situation.
Et combien de cas ici, par an, que vous...
On ne peut même pas compter. Il y en a des tonnes de cas. C'est parce que les gens, étant sans papier, ils ont peur. Ils se disent, même si je suis victime d'un accident, si je vais me dénoncer, on va m'arrêter, on va m'envoyer dans un centre de santé, dans un centre de rétention. Du coup, ceux qui sont sans papier ont peur de dénoncer cette situation. Cette situation, il y en a, c'est des cas légion. Il y en a un peu partout. Nous sommes victimes des accidents de travail presque partout, nous, parce qu'on travaille plus dans le bâtiment. Et vous savez, dans le bâtiment, vous savez comment ça se passe. On n'a même pas des tenues de sécurité, on n'a même pas des gants, on n'a même pas des casseurs de sécurité. Nous sommes livrés à nous-mêmes, parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de droit, ils ne peuvent rien dire, ils n'ont pas le choix. Et comme nous aussi, nous n'avons pas le choix, effectivement, on doit manger, nous devons payer nos charges locatives, nos frais de loyer. On se dit, il faut aller gagner. Moi, je vous ai dit mon cas tout à l'heure. Je travaillais de 9h à 20h, parfois à 22h par jour, pendant 6 jours de la semaine. Et je gagne 200 euros. Ça ne fait même pas 3 euros. Je vous dis, ça ne fait même pas 3 euros l'heure. Mais comme je devais quand même avoir de quoi me nourrir, de quoi faire face à mes charges, j'étais obligé quand même d'aller faire ce boulot. Et pas fini, il ne me permet pas. Le peu qu'il devait me donner, il ne me permet pas.
Dans quelles conditions ils vivent les sans-papiers ?
J'ai pas compris.
Dans quelles conditions les sans-papiers vivent maintenant ?
J'avoue que la condition des sans-papiers est devenue encore plus critique à cause de la pandémie. On était déjà dans des conditions encore très précaires bien avant. Mais avec l'arrivée de la pandémie du Covid, nous sommes devenus aujourd'hui plus précaires qu'avant. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, beaucoup de restaurants qui ont fermé à cause du Covid. Et tous ces restaurants qui ont fermé, qui travaillaient, qui faisaient la plonge dans ces restaurants, c'était nous les sans-papiers, c'était nous les demandeurs de papiers. Et quand ces patrons ont fermé, nous sommes obligés de rentrer chez nous. On n'a pas d'autre choix. Heureusement que nous avons des associations qui partagent, qui donnent des colis alimentaires, où nous sommes obligés de nous rendre dans ces lieux pour prendre de quoi et manger.
Si vous voulez rajouter autre chose.
Oui, c'est plutôt un merci à vous les médias. Et vous faites un effort, vous faites tout pour visibiliser ce que nous vivons. Sans vous, on ne peut pas être au courant de ce qui se passe. Continuez ce boulot, continuez pas quand même, et allez chercher la vérité. N'attendez pas que les demandeurs de papier viennent vers vous. Ils ont peur. Nous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes des militants. Nous sommes des guerriers qu'on n'a plus peur. On n'a plus peur de rien, de quoi que ce soit. On se dit que nous sommes là et plus rien de nous. Nous avons le droit d'habiter là où nous voulons. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière en temps normal. Si aujourd'hui les Français viennent en Afrique librement et on ne leur demande pas de carte de séjour, pourquoi nous on vient ici on nous demande de carte de séjour? Alors allez vers les demandeurs de papier et tendez-leur votre micro, parlez-leur et ils vont vous dire réellement ce qui se passe. Voilà, je vous remercie.
Rappelez-moi votre prénom.
On m'appelle Francky, je suis délégué du collectif des demandeurs de papier de Marseille. Je suis originaire du Bénin.
Merci Francky.
Merci à vous.
Je suis venu pour assister à cette réunion d'hommage aux migrants, qui est un rituel, mais en plus, plus fort, je dois parler plus fort, c'est ça ? D'accord. Et dans cette journée, on inclut aussi un hommage à Domenico Lucado, le maire du village de Riace en Italie, qui a redonné vie à ce village pendant 20 ans grâce à l'arrivée des migrants qu'ils ont su accueillir et intégrer. Et ce monsieur, aujourd'hui, est condamné par la justice italienne et soutenu par l'extrême droite et peut-être la mafia, même sans doute, à 13 ans de prison, et 600 000 euros d'amende.
Avant d'aller au fond, est-ce que vous avez revu le film
Ah oui, le film. Oui. J'ai vu le film Palace des Calabria de Chuaiello. Je l'ai même vu plusieurs fois. Chaque fois qu'on le projette, je tâche d'y aller. Parce que, outre les qualités politiques et sociologiques qu'il présente, artistiquement, c'est une merveille aussi. Donc, j'adore aller voir ce film. Il y a l'Italie, tout ça, mais surtout, c'est l'essentiel. Quoi. Le côté politique et artistique en même temps, qui fait que c'est un petit bijou. C'est plus que catastrophique, enfin, cette espèce de... Je sais pas trop, ça n'a pas de nom, parce que... Alors que le film montre combien tout a été harmonisé, et cette volonté de casser ça, c'est à la limite du... Je dirais pas un génocide, mais c'est criminel, en tout cas.
Pour vous, l'Europe, elle se ferme ou elle s'ouvre ?
Pour moi, selon moi, elle n'est pas en train de s'ouvrir. Non, elle n'est pas en train de s'ouvrir. Ah oui, elle se calcine, plutôt. J'ai l'impression qu'elle se calcine. Voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes venu rendre hommage à qui ?
Ah ben, aux migrants en général, de toute façon, mais aux migrants, au fond, à la notion même de migrants et des douleurs qu'elle implique, et à Locano en particulier. Et au fond, je suis à Yellow aussi pour ce film qui est merveilleux.
Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, je suis très content que vous ayez eu l'occasion de vous poser toutes ces questions. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci.
Mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc.
Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Quand on est jamais invité, quand on est sans thune, sans talon, même sans papier.
Mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé, je m'étais de naissance. Je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc.
Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Quand on est jamais invité, quand on est sans thune, sans talon, même sans papier.
Et j'ai caressé des vignes, et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits, je n'ai vu que des lignes. Paraît qu'ici, on ne voit que du vin. Je suis venu et je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi, je n'ai vu que les stores qui ne m'ont jamais dit, allez, viens. Je suis venu, c'était pas au clair de la lune. M'entendre dire, on va chercher ton or. Non, je suis pas venu pour faire fortune, habillé en peau de castor.
Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité, quand on est sans thune, sans talon, même sans papier. Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité, quand on est sans thune, sans talon, même sans papier.
Mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu, mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire, mon cher Léon, que ce soit sur un air d'accordéon.
Mon visage, tu ne pages qu'on n'arrache pas. Je sais que je serai ce coup pas. Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité, quand on est sans thune, sans talon, même sans papier. Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute même sans l'idée. Comme jamais invité comme donné. Sans thune, sans anomère, sans papier. Sans bruit, sans bouchon, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans l'idée. Comme jamais invité comme donné. Sans thune, sans anomère.